Adieu, dit-il encore, des lèvres plutôt que de la voix. Puis il ajouta le psaume 23. La vieille Bible était là sur la table. Julie l'ouvrit à un endroit souvent feuilleté et lut d'une voix respectueuse et lente les saintes paroles qui ont accompagné tant d'âmes dans le redoutable passage. L'Éternel est mon berger, je n'aurai point de disette. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. La lueur pâlissante de la lampe éclairait le visage de la jeune fille tout baigné de larmes, et la belle figure sereine du vieillard sur laquelle la mort a posé déjà son sceau mystérieux. Quand Julie en vint à ces mots, « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours », le mourant leva la tête. « J'y vais !» dit-il. Puis il retomba, et ce fut son dernier souffle. « Adieu, adieu !» murmura Julie en appuyant ses lèvres sur ce front glacé. Puis elle s'assit au pied de celui qui avait été pour elle un père et pleura longtemps comme brisée. La rue, jusqu'à ce moment silencieuse, s'emplissait maintenant d'un bruit de pas et de voix. De joyeux bonsoirs s'échangeaient à chaque porte. Julie entendit bientôt qu'on montait l'escalier. Toute frémissante, elle se leva. « Je ne veux pas qu'elle entre ici !» se dit-elle. Et, sortant aussitôt, elle se trouva face à face avec Madame Fèvre. Celle-ci paraissait fort animée. Évidemment, le spectacle l'avait divertie. Mais une surprise effrayée se peignit sur son visage, à la vue de Julie, pâle et les yeux rougis. « Que fais-tu ici ? » dit-elle en reculant. « Il n'est pourtant pas malade ?»« Si, très malade. N'entrez pas, » dit-elle en voyant Madame Fèvre s'avancer vers la porte. « Ni vous, ni moi, n'y pouvons plus rien. Il est mort. » Judith Fèvre poussa un cri, un seul, et cacha sa figure dans ses mains. Julie la regardait à distance, s'efforçant de maîtriser l'amertume qui bouillonnait en elle et qui aurait voulu s'épancher en accusation indignée. Le silence dura longtemps. Enfin, Madame Fèvre murmura sans montrer son visage. « A-t-il parlé de moi ?»« Il a su que vous l'aviez trompé, et maintenant il est mort, tante Judith, et rien ne pourra plus réparer le mal que vous lui avez fait. » Sans répondre, Madame Fèvre passa devant Julie en l'écartant du geste, puis ouvrit la porte. La vue de ce corps immobile, de ce visage de marbre, l'arrêta sur le seuil. Un tremblement nerveux s'empara d'elle. Elle se mit à pleurer convulsivement et bientôt ses sanglots devinrent des cris. « Ce n'est pas ma faute, gémissait-elle. Je l'ai toujours bien soignée. Il m'aimait aussi. Il m'appelait sa bonne Judith. « David, David, pourquoi m'avez-vous laissé? Les gens vont dire que je vous ai fait du mal. » Comme l'expression de ce lâche désespoir menaçait de finir en crise nerveuse, Julie se fit violence pour toucher Madame Fèvre et l'emmener dans une autre pièce. « Prenez un peu d'eau, dit-elle en lui présentant un verre, et tâchez de vous calmer. Nous avons encore des devoirs à remplir. Je vais descendre chez nos voisins et prier les hommes de monter pour ensevelir mon pauvre oncle. « Miséricorde, Julie, tu ne vas pas me laisser seule !» s'écria Madame Fèvre en s'attachant à sa nièce d'un air épouvanté. « Descendez alors vous-même et demandez en même temps qu'on coure chez Julien Robin pour l'informer de ce qui est arrivé. » Madame Fèvre se hâta de sortir et la vue de son désespoir, de ses sanglots nerveux, de ses ruisseaux de larmes, émut vivement les voisines. Ses marques d'affliction furent jugées tout à fait édifiantes. « Elle a pleuré deux fois plus que Julie, se disait-on le lendemain. Qui aurait cru qu'elle avait le cœur si tendre ?» Cependant, les hommes de la maison avaient accompli leur funèbre tâche. Ils avaient porté le mort sur son lit et l'avaient habillé de noir, puis ils se retirèrent et Julie resta seule à veiller avec son fiancé. Dans le recueillement de ses premières heures de deuil, ils parlèrent peu. La jeune fille répéta en quelques mots à Julien les événements de la soirée et le dernier entretien par lequel le fatal malentendu s'était enfin dissipé. Ce récit concerna le jeune homme car c'était sa trop réelle jalousie qui avait été le fondement de l'habile mensonge de Madame Fèvre. C'est moi qui t'ai privé de ton oncle, dit-il à Julie. Pourras-tu me le pardonner ? Elle lui mit doucement la main sur la bouche. Il ne m'appartient pas de te faire des reproches, dit-elle, car j'ai eu bien des torts aussi. Tout se serait éclairci plus tôt, et nous aurions pu encore être heureux, si le dépit et l'orgueil ne m'avaient retenu d'interroger l'oncle. Ils se turent tous deux et repassèrent dans leur mémoire les années de paisible bonheur qu'ils étaient écoulés auprès Berthoux, la constante bonté du vieillard, mille traits de générosité et de sollicitude, tout le précieux trésor des souvenirs qui vous font vivre avec l'être aimé alors même qu'il est parti. Enfin, le matin vint, et avec lui, des préoccupations de tout genre, tous ces soins importuns et pourtant bienfaisants qui obligent le cœur à se distraire de son chagrin. Julien dut sortir pour accomplir diverses formalités d'état civil. Julie eut à conférer avec la couturière au sujet des vêtements de deuil. Il fallut écrire aux parents et amis éloignés, s'occuper des détails de l'enterrement. Dans la matinée, le juge de paix se présenta pour apposer les scellés sur tout ce qui avait appartenu au défunt. À peine ce magistrat était-il entré que Madame Fèvre disparut. Elle revint bientôt, tenant d'un air solennel une grande enveloppe jaune. « Voici le testament de mon beau-frère qu'il m'avait remis, » dit-elle sans lever les yeux sur Julie. « Mon oncle en a fait un autre hier soir, » dit tranquillement la jeune fille, en prenant dans le tiroir de la table un pli qu'elle remit au juge. Madame Fèvre devint livide. Portant la main à son front d'un air hagard, elle chancela. Julie s'avança pour la soutenir, mais elle la repoussa d'un geste violent et sortit en se tenant au mur. Quelques instants plus tard, Julie la trouva dans sa cuisine, la tête inclinée sur la table, dans un état d'étrange prostration. Jusqu'au soir, elle ne fit qu'errer comme une ombre, regardant d'un air absent les gens et les choses qui l'entouraient. La violente commotion du matin, s'ajoutant à l'ébranlement nerveux de la veille, avait complètement troublé l'équilibre de son esprit, ordinairement lucide et froid. Toute la journée, les visites se succédèrent presque sans interruption. Julie, fatiguée à l'excès de répondre toujours aux mêmes questions, d'écouter sans cesse les mêmes litanies de consolation banales, aurait désiré que la tante la remplaçât de temps en temps. Mais les visiteurs, qui tous avaient connu et aimé le bon oncle, demandaient à le voir encore une fois, et aucune puissance humaine n'eût pu décider Madame Fèvre à franchir le seuil de la chambre mortuaire. Elle allait et venait dans les autres pièces comme une âme en peine, les yeux obstinément fixés au plancher, et répétant de temps à autre d'une voix plaintive « Je le soignais si bien! Pourquoi donc est-il mort ?» Mais quand elle était seule, elle se prenait à serrer les poings en secouant la tête d'un air menaçant. « Je la traînerai en justice, je lui ferai un procès. Rien pour moi, il n'y aura rien, mais je ferai casser le testament. Oui, je le ferai !» Puis elle se laissait tomber sur un siège, haletante, les bras pendants, et restait longtemps à regarder d'un œil fixe quelque fente dans la muraille. Vers le soir, elle se plaignit d'un violent mal de tête. « J'ai mal, là, là !» disait-elle en se serrant les tempes à deux mains. « Il me semble que le forgeron me bat un grand coup de marteau. »« Couchez-vous, » dit Julie, « je ne retournerai pas à la maison avant 10 heures. »« Est-ce que tu t'en vas ce soir ?» s'écria Madame Fèvre d'un air terrifié. « Ne me laisse pas seule ici, j'en perdrai la tête !» « Il faut pourtant que je sache ce que deviennent les enfants. »« Tu les as vus aujourd'hui, tu les verras encore demain. Julie, je t'en supplie, reste avec moi pour cette nuit. » »« Une des voisines montera pour vous tenir compagnie. » »« Je ne veux pas des voisines, elles sont stupides, elles me regardent comme une bête curieuse. Si par hasard je dis un mot pour un autre, elles se poussent du coude, je l'ai bien vu. » Le fait est que Judith Fèvre, dans cet état d'extrême excitation, avait prononcé des paroles assez compromettantes qu'on n'avait pas manqué de relever. On commençait d'ailleurs à trouver que son chagrin se manifestait d'une manière étrange. Julie, remarquant l'air presque égaré de sa tante, envoya Julien en tournée d'inspection auprès Berthoux et fit prier la bonne Suzette de la remplacer encore pour cette nuit. Pauvre Julie, abîmé de fatigue, sentant son chagrin se raviver, chaque fois qu'un instant de relâche lui laissait le temps de penser, elle était encore debout longtemps après minuit, soignant Madame Fèvre qui gémissait sans cesse. Bien des fois, elle s'échappa sans rien dire pour aller passer quelques minutes de douloureuse contemplation au chevet de celui dont la dépouille mortelle allait bientôt être enlevée. Quand, enfin, elle se résolut à se coucher, ce ne fut point pour chercher le sommeil. Mais elle éprouvait du soulagement à ne plus rien voir, à ne plus rien entendre, à pouvoir pleurer silencieusement sans que personne ne s'efforçât de la consoler. La journée du lendemain s'écoula de même, pleine d'une agitation fatigante et de funèbres apprêts. Madame Fèvre semblait plus calme. Elle reçut quelques visiteurs, s'occupa des préparatifs du repas de funérailles, mais elle se montra très inégale envers Julie, tantôt froide, hostile, tantôt plaintive et invoquant l'assistance, presque la protection de sa nièce, d'un ton d'enfant abandonné. Vers le soir, ses terreurs la reprirent et Julie vit qu'il ne fallait pas songer à la quitter. Les heures de la nuit s'écoulèrent lentement. Le lendemain vint, gris et sombre, avec un ciel de deuil. Julie mit sa lourde et triste robe de cachemire noir dont les hautes ruches de crêpe la faisaient paraître encore plus pâle. Abattue et fatiguée, elle ne pleurait pas. Madame Fèvre, par contre, eut un violent accès de larmes à la fin de la matinée. Elle sanglotait encore lorsque les cloches se mirent à tinter lentement. Habillons-nous, dit Julie en se levant machinalement. Elle mit son chapeau, heureuse de pouvoir cacher ses yeux rougis derrière son épais voile de crêpe. Puis elle descendit l'escalier comme en rêve, elle vit le corbillard arrêté devant la maison, elle distingua confusément des hommes vêtus de noir qui se rangeaient deux à deux. Puis elle répondit, sans savoir ce qu'elle disait, à beaucoup de personnes qui lui serraient la main. Les femmes, à leur tour, en bonnet noir et en voile, s'approchèrent pour prendre rang. On lui dit de marcher à côté de sa tante, elle le fit, et le triste cortège se mit en route lentement. Julie n'entendait que le battement régulier de la cloche. Chaque coup faisait vibrer douloureusement ses tempes enfiévrées. Il lui semblait que des ondes sonores roulaient de toutes parts et l'enveloppaient comme des vagues, que l'air lui-même devenait d'airain pour vibrer. Cette espèce de fascination ne cessa que lorsque la voix connue du pasteur se fit entendre au cimetière. Julie put l'écouter calmement et recevoir son message de consolation. Placée comme elle l'était, elle ne vit pas le cercueil descendre dans la fosse. Elle s'était détournée et priée silencieusement lorsqu'on la toucha légèrement à l'épaule. C'était Madame Fèvre. « Regarde !» lui dit-elle à voix basse en étendant le doigt vers la porte du cimetière. « Regarde, voilà mon beau-frère. N'est-ce pas singulier qu'il soit ici ?» Julie leva les yeux et vit un groupe d'hommes dans la direction indiquée. « Je ne savais pas que ma tante eût un autre beau-frère, » se dit-elle. C'est sans doute du côté de son second mari. Puis elle n'y pensa plus. Après la cérémonie funèbre, les parents et amis venus du dehors furent invités à dîner ensemble. Comme ni l'appartement ni la vaisselle de Madame Fèvre n'y eussent suffi, le dîner fut servi à l'hôtel. Julie se sentait abîmée de corps et d'esprit, elle obtint qu'on la dispensât d'y paraître. Mais Madame Fèvre y alla et présida d'un air très digne. Un repas de funérailles est toujours une chose assez singulière. Beaucoup de gens sont là qui ne connaissaient guère le défunt et s'efforcent néanmoins de s'attendrir profondément sur sa mort. La viande et le vin circulent, régal inaccoutumé pour plusieurs qui dévorent les plats des yeux et mangent comme à la tâche. Entre chaque bouchée, ils poussent de gros soupirs pour montrer que leur chagrin est égal à leur appétit. D'autres hochent la tête avec componction en déclarant que nous sommes tous mortels, mais qu'il faut se soutenir. Et ils se soutiennent en vidant leur verre aussi souvent que possible. Le bruit des fourchettes et des soupirs, tous ces visages qui gardent à grand-peine leur masque de tristesse, ce deuil qui festoie, ces crêpes qui traînent à terre, forment un singulier et lugubre assemblage. Vers la fin du repas, Madame Fèvre étonna bien son monde en annonçant tout à coup à haute et intelligible voix que sa nièce, Mademoiselle Julie Dumont, se mariait prochainement et qu'elle invitait à la noce toutes les personnes présentes. Julien, stupéfait, la regardait en se demandant s'il fallait protester ou paraître n'avoir pas entendu, quand la porte s'ouvrit et le juge de paix entra solennellement. Il portait une serviette en maroquin qu'il posa lentement sur la table, en homme sûr de son effet. Un grand silence régnait maintenant dans la salle. Chacun avait posé fourchette et couteau, et l'un des convives, ayant eu le malheur de heurter son verre qui sonna comme une cloche de cristal, tant dieux indignés se braquèrent sur lui qu'il en perdit tout à fait contenance. Cependant, le magistrat, après un petit préambule, déplia le testament. Il le lut en accentuant chaque mot, le replia soigneusement, le remit dans son portefeuille et sortit. Un petit murmure courut autour de la table, on cherchait les héritiers pour les féliciter, mais aucun n'était présent. « Je vous expliquerai comment les choses se sont passées, » dit Madame Fèvre en se levant majestueusement. Chacun la regardait d'un air surpris, mais elle continua sans se troubler. « Mon beau-frère voulait tout me laisser, et même il avait déjà fait un testament en ma faveur. Mais je l'ai tant supplié de ne pas faire tort à ses neveux et nièces qu'il a fini par m'écouter. D'ailleurs, continua-t-elle en se penchant vers son voisin, d'un air confidentiel, David n'avait pas d'autre fortune qu'un gros sac de centimes rouges pour une valeur de 125 francs. Qu'est-ce que j'aurais fait de cela ? Puis elle poussa sa chaise de côté et sortit, laissant ses auditeurs passablement stupéfaits. Julie ne revit pas sa tante ce jour-là, car elle s'était hâtée de retourner auprès Berthoux aussitôt qu'elle l'avait pu. Elle n'apprit que le lendemain les divers incidents du dîner. Cependant, Madame Fèvre ménageait d'autres surprises à sa famille et à ses voisins. Elle passa la soirée chez les locataires du premier et vers 10 heures, elle monta chez elle. Mais, au bout de quelques minutes, on la vit redescendre tout effarée. Elle avait entendu marcher dans la chambre du défunt, disait-elle, quelqu'un s'y était caché. À aucun prix, elle ne passerait la nuit seule dans son appartement. « Nous n'avons malheureusement pas de place pour vous coucher ici, » dit la bonne dame Jules, voyant sa terreur. « Mais, si vous voulez, j'irai dormir avec vous là-haut. » Une expédition s'organisa aussitôt pour escorter les deux femmes. Papa Jules prit son pistolet à la demande expresse de Madame Fèvre et l'on monta encore au logis suspect. Une visite minutieuse, n'ayant amené la découverte d'aucun brigand caché sous un meuble ou dans une armoire, Madame Fèvre et sa compagne furent laissées à la garde du pistolet. Alors commença pour la pauvre dame Jules une longue série d'épreuves. Comme sa conscience ne la tourmentait pas plus que son imagination, elle s'endormit en mettant la tête sur l'oreiller, mais elle fut bientôt tirée de son sommeil par une main froide qui se posait sur son front. Madame Fèvre était debout à côté du lit, tenant un chandelier. « Écoutez, on marche dans la cuisine !» fit-elle d'une voix terrifiée. « C'est le chat, laissez-moi tranquille !» répondit la dormeuse avec un peu d'humeur. Puis elle se tourna contre la muraille et ferma les yeux. « Émilie, levez-vous !» reprit Madame Fèvre avec insistance. « Je vous dis qu'il est dans la cuisine, il va entrer !»« Tournez donc la clé et recouchez-vous, Judith !» Mais ici, Madame Fèvre poussa un cri de terreur et sa compagne pensa qu'il était urgent de se réveiller tout à fait. « Eh bien, quoi » fit-elle en cherchant à ouvrir tout grand ses yeux ensommeillés. Tante Judith, immobile comme la femme de l'hôte, étendait le bras d'un geste fixe vers un point de la muraille où semblait flotter une vague image. « C'est la glace et votre camisole blanche qu'on voit dedans. La belle affaire !» gronda Madame Jules. « Êtes-vous drôle ce soir ? Tenez, buvez un peu d'eau, ça vous rafraîchira les idées. »« Émilie, allez à la cuisine !» interrompit Madame Fèvre d'un ton impérieux. « Vous lui direz qu'il ferait mieux de s'en aller, que je le verrai demain matin. » « Vous battez la campagne à présent !» fit la voisine alarmée. « Allons, Judith, recouchez-vous. Si ça peut vous faire plaisir, je m'assiérai à côté de votre lit jusqu'à ce que vous dormiez. » Tante Judith se laissa convaincre et se coucha, après avoir fait jurer solennellement à sa garde que la chandelle resterait allumée jusqu'au matin. Madame Jules borda soigneusement les couvertures, s'arrangea du mieux qu'elle put sur sa chaise, puis se demanda ce que faisaient ses enfants, si le bébé n'était pas tombé de son berceau, si Julot ne risquait point de s'étouffer avec son sucre candi, si la veilleuse n'aurait point mis le feu au rideau. La bonne femme n'alla pas plus loin dans ses sinistres hypothèses, car ses idées devinrent confuses et flottantes. Sa tête fit deux ou trois plongeons, et finalement s'inclina contre le chevet du lit où elle s'appuya doucement. Tout dormait dans la petite chambre, et le silence n'était troublé que par le léger crépitement de la chandelle qui pétillait de temps à autre et lançait en l'air comme de petites fusées. Mais voici que Madame Jules fit un rêve contre son habitude et ses principes. Elle rêva qu'étant en bateau, elle se sentait violemment secouée par le roulis. Elle s'en plaignit au patron de la barque, qui lui répondit irrévérencieusement « Madame, vous êtes une grosse baleine !» Alors son mari sauta à la gorge de l'insolent qui cria au secours, puis une horrible détonation se fit entendre et Madame Jules se réveilla. « Judith, au nom du ciel, qu'y a-t-il ? » Madame Fèvre était debout au milieu de la chambre, dans une attitude belliqueuse, le pistolet à la main et tout entourée d'un nuage de fumée. « Je l'ai tué, le coquin » murmura-t-elle d'une voix étranglée. « Il n'y reviendra pas. C'est Julie qui a le bon testament. Allez le lui demander. Le mien n'est plus qu'une feuille de chou. » « Elle a la fièvre, c'est clair, » pensa Madame Jules, très perplexe. « Vous faites là de belles besognes, Judith. Est-ce qu'on s'amuse à tirer du pistolet au milieu de la nuit ?» L'arme, fort heureusement, n'était chargée qu'à poudre, mais cette détonation avait réveillé toute la maisonnée. Bientôt, des voix effarées se firent entendre dans le corridor. Papa Jules demandait impérieusement à entrer, voulant savoir ce qu'on avait fait de sa femme. Tante Judith, l'auteur de tout ce trouble nocturne, était encore debout à la même place, regardant d'un air stupéfait l'arme qu'elle tenait à la main. Elle dit qu'elle avait eu un cauchemar et se laissa docilement recoucher. Cependant, Madame Jules ne voulut pas demeurer seule dans cette peu rassurante compagnie. Elle s'adjoignit sa servante comme aide de camp et toutes deux restèrent à veiller jusqu'à l'aube. Quand, au matin, Madame Fèvre se leva, toute trace de son accès de délire avait disparu. Elle remercia ses deux gardes, prépara leur déjeuner et s'informa avec quelque inquiétude des paroles qu'elle avait prononcées pendant la nuit. Puis elle déclara que l'air frais la remettrait complètement et qu'elle ferait une petite promenade. Madame Jules, qui la regarda sortir, la vit se diriger du côté du Pré Berthoux. « C'est drôle, se dit-elle, du vivant de l'oncle, elle n'allait presque jamais chez Julie. » La jeune fille aussi fut surprise en reconnaissant de loin sa tante sur le sentier. « Que peut-elle avoir à me dire? Ce n'est pas pour le plaisir de me souhaiter le bonjour qu'elle vient ici, » pensa-t-elle. Mais tante Judith semblait n'avoir rien de particulier à communiquer à sa nièce. Elle paraissait très essoufflée en arrivant et dénoua d'une main impatiente les rubans de son chapeau. « Quel temps chaud, » dit-elle, « on pourra bientôt faire la moisson. » « Il y a longtemps qu'elle est faite, » dit Julie en considérant sa tante avec surprise. « Ah, c'est vrai, j'oubliais. Tu ne sais pas qui j'ai rencontré en chemin ?» continua-t-elle en mettant son doigt sur son nez d'un air de mystère. « Non, vraiment. Ton oncle David, ça te surprend, je vois, » dit-elle comme Julie restait muette de stupéfaction. « Tante, ne plaisantez pas ainsi. C'est hier que nous avons conduit mon pauvre homme au cimetière. »« Ta, 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 c'est toi qui le dis, toi et Julien, parce que vous avez le bon testament et que vous voudriez hériter tout de suite. Mais je le sais mieux que vous et j'en parlerai au juge de paix. »« Tiens, » fit-elle en se levant avec vivacité, « le voilà qui passe. N'est-ce pas mon beau-frère David ?» Un jeune homme en blouse bleue s'avançait dans le sentier. C'était un Français de la frontière, chargé d'une besace gonflée de contrebande. Cependant, Madame Fèvre avait ouvert la fenêtre et multiplié les signaux pour engager le passant à s'approcher. Quand elle se tourna vers Julie, celle-ci fut épouvantée de ses yeux hagards et fixes. « Elle est folle, » pensa-t-elle. Et c'était vrai, l'implacable enchaînement des circonstances amenait la rétribution. Judith Febvre avait semé l'erreur et le trouble, elle récoltait la folie. Le remords, une tension d'esprit prolongée et des commotions trop vives avaient ébranlé son cerveau, qu'une idée fixe hantait constamment, celle que son beau-frère n'était pas réellement mort et qu'il fallait à toute force arracher sa fortune à ses héritiers prématurés. Partout, elle s'imaginait rencontrer le vieillard, quelquefois amical et doux, le plus souvent sombre, irrité, irréconciliable. Et la malheureuse femme vécut dès lors dans de constantes terreurs. Cependant, Julie, le premier moment de stupeur passé, se demanda ce qu'il y avait à faire. « Il est nécessaire que le docteur la voie, » pensa-t-elle en regardant Madame Febvre, qui continuait à secouer la tête d'un air engageant, bien que le passant se fût déjà éloigné. « Tante, » dit-elle en la prenant doucement par le bras, « vous ne semblez pas très bien aujourd'hui. » « Oh, non, non !» répondit Madame Febvre d'un ton dolent. « Je ne suis pas bien du tout. J'ai très mal dormi la nuit passée, sais-tu. Il voulait entrer à toute force et j'ai dû rester debout pour garder la porte. Maintenant, j'ai si mal à la tête. »«
Voulez-vous que nous allions ensemble chez le médecin ?» dit Julie. « Il vous donnera quelque chose pour vous faire dormir. »«
C'est cher, le docteur, et les remèdes aussi !» fit tante Judith en hochant la tête. « Je ne suis pas une héritière, moi !»« Mais tu ne le seras pas non plus !» s'écria-t-elle, et une flamme de colère s'alluma soudain dans ses yeux. « Tu n'auras rien, rien !»«
Tante, » dit Julie pour l'apaiser, « je paierai tout ce qu'il faudra, la consultation et les remèdes, si vous voulez seulement venir avec moi. Il est absolument nécessaire de vous soigner. » Et Madame Febvre ayant consenti à cet arrangement, toutes deux se mirent en route. Ce ne fut pas sans peine que Julie atteignit le village avec sa malade. Celle-ci montrait une propension extrême à entrer en conversation avec tous les passants. Plusieurs fois aussi, elle s'assit au bord du chemin en déclarant qu'elle ne ferait plus un pas si le juge de paix ne venait lui-même lui offrir sa main. Pourtant, à force de diplomatie et de patience, Madame Febvre finit par se trouver dans le cabinet du docteur. Celui-ci, sur quelques mots que Julie lui dit à voix basse, interrogea minutieusement la malade, prescrivit une potion calmante et prit la jeune fille à part pour lui donner ses instructions. « Essayez de la garder pendant quelques jours encore, » dit-il. « Ceci peut n'être qu'un accès passager. » Le repos et l'influence d'une personne ferme et tranquille ont parfois suffi dans des cas semblables. Jusqu'au soir, tout alla bien. Madame Febvre parla beaucoup, mais sans extravaguer. Cependant, quand l'obscurité fut venue, une sorte d'inquiétude s'empara de la malade. Elle se mit à errer dans l'appartement en murmurant des paroles incohérentes et les scènes de la nuit précédente recommencèrent. Julie voulut persévérer. Pendant plusieurs jours encore, elle se fit la garde assidue de sa tante, apaisant ses terreurs soudaines, cherchant à éloigner les visions étranges de cette pauvre tête égarée. Mais enfin, le docteur, craignant une aggravation du mal, déclara que les soins d'un spécialiste étaient nécessaires et la difficile mission de conduire Madame Febvre dans une maison d'aliénés fut dévolue à Julien. Lorsqu'il revint de ce voyage, Julie l'attendait à la poste.
« Eh bien, comment s'aller ? » lui demanda-t-elle.
« Pas trop mal. Nous avons trouvé en wagon un vieux monsieur qui ressemblait un peu à l'oncle David. Quand il regardait Madame Febvre, elle ne bougeait plus et il n'avait qu'un mot à lui dire pour la rendre douce comme un agneau.
« Le médecin de Préfargier espère-t-il la guérir ? » ?»«
Il n'y compte guère. Elle est très affaiblie de corps aussi bien que d'esprit et, à son âge, les cures sont toujours difficiles. »
Quel terrible châtiment, Julie!
Tous deux restèrent silencieux. La compassion chassait le ressentiment de leur cœur. Enfin, Julien reprit.
J'ai passé chez mon frère en revenant. Tu sais qu'il a été malade la semaine dernière. Il n'est pas encore tout à fait remis. Mais il m'a très bien reçu et, regarde,
continua Julien en tirant de son portefeuille 3 billets de banque qu'il montra d'un air rayonnant à Julie. « Voilà ce que Eugène me donne. Il a commencé à faire un peu de commerce pour son compte et il a consacré d'avance ses premiers bénéfices à notre liquidation. N'est-ce pas un bon garçon ? 300 francs, c'est beaucoup pour lui. » Julie ne trouvait pas cette générosité si méritoire, mais elle n'en dit rien et le jeune homme reprit « J'enverrai demain cet argent à mon notaire ainsi que mes économies de l'année. Dans quelques mois, la réhabilitation sera prononcée. Il n'y aura plus de tâches sur le nom de mon père. Tu l'accepteras alors, n'est-ce pas, Julie ? » dit-il en prenant tendrement les mains de sa fiancée. La jeune fille regarda sa robe noire et secoua tristement la tête. « Nous en parlerons plus tard, veux-tu » dit-elle. « La joie ne peut venir si vite après tant de chagrin. » Quelques mois après ces événements, par une claire soirée d'avril, un jeune couple se promenait lentement le long du sentier qui mène au Pré Berthoux. La tendre verdure nouvelle poussait partout dans les touffes d'herbes desséchées. De blancs perce-neige et des hépatites roses souriaient aux pieds du vieux mur gris du jardin. Tout à coup, le jeune homme arrêta sa compagne. « Regarde, » dit-il en indiquant du doigt une petite éminence rocailleuse qui se trouvait au bout du pré. Un grand buisson d'aubépine y étendait ses fortes branches et, tout au bout de l'une d'elles, se balançait un gentil rouge-gorge. Il gonflait sa mignonne poitrine écarlate et, de son petit bec largement ouvert, faisait sortir les notes joyeuses de son chant du soir. Le soleil se couchait derrière les sapins. Quand le dernier rayon de soleil s'éteignit, l'oiseau se tut et s'envola. Julie, alors, se tourna vers son fiancé. « Ne dirait-on pas, murmura-t-elle d'une voix un peu émue, qu'il sait que nous nous marions demain et qu'il nous apporte un salut de notre oncle ?»